D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisqu'on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy. Quand on parle une langue, on est enfermé en elle. Tout le monde alentour l'utilise, on se comprend spontanément ou en tout cas sans trop d'efforts. Notre parler nous semble naturel. Ce mot si ambigu, si dangereux aussi. Si c'est nous le naturel, que sont les autres? Des artificiels, des usurpateurs, des étrangers, des ennemis? Qu'est-ce que le naturel quand on vit dans une société humaine où sont organisées une éducation, des rites et mille autres encadrements depuis des siècles et des siècles? Mettons qu'une langue soit un mode de communication oral et écrit sur lequel on feint de croire qu'il y a une unité totale de compréhension. Et après tout, si on le croit, il y a des chances qu'on s'en approche. Une langue, comme une société, n'est jamais aussi refermée sur elle-même qu'elle peut le croire. Le Japon, de 1639 à 1854, a été fermé à l'étranger. Et après tout, c'était son droit. Et après tout, c'était assez beau de vouloir rester entre soi sans rien demander aux autres. Et après tout, quelle barbarie que les bombardements américains pour forcer ce pays à s'ouvrir au commerce. Si on n'a pas envie de commercer, on a le droit, non? Non. Le commerce veut des gueules ouvertes et cède parfois des gueules des canons. Au demeurant, le Japon n'était pas resté absolument fermé. Il y avait quelques échanges avec les Chinois et les Hollandais. Et la langue japonaise venait de la Chine, et avec cette langue impure, on continuait à étudier les sciences occidentales. S'il y a un pays ouvert à tous les vents, c'est la France. Ce carré par où les autres sont entrés de tous côtés, surtout l'Est et le Sud. La langue française est une langue romane, comme on sait. Au Moyen-Âge, elle s'est consolidée et on y a étudié, mais en petit nombre, des écrivains étrangers, surtout des antiques en latin. Tout a changé avec l'invention de l'imprimerie. Le premier livre imprimé, en 1455, était une traduction, puisque c'était la Bible en latin. En 1470 est publié le premier livre en français. En 1476, la première traduction en français. Les traductions ont même été, pendant les premières décennies de l'imprimerie en France, les plus nombreuses. Et cela a été capital pour l'enrichissement de la langue française et de la pensée en France. Quel est le secret professionnel des premières traductions en langue française à la Renaissance? Je reçois pour en parler Yves Chevrel, un des directeurs de la remarquable histoire des traductions en langue française chez Verdier, dont le tome consacré au XVe et au XVIe siècle vient de paraître. Yves Chevrel, quels étaient les lieux en France où l'imprimerie et par conséquent ses premières traductions avaient lieu?
Alors il se trouve que, je dirais presque comme de bien entendu, Paris a été un des centres principaux des lieux où les imprimeurs se sont installés, dès en gros 1470 à peu près. C'est là que l'on trouve les premiers imprimeurs et ensuite les premiers libraires imprimeurs. Le deuxième grand centre, c'est Lyon, hein, qui est proche de l'Italie, qui est une sorte de concurrence avec Paris. Pendant toute la Renaissance, tout le siècle, ça s'est un petit peu atténué par la suite, où Paris a vraiment pris l'ascendant. Le troisième centre, et curieusement, c'est Rouen. Hein, peut-être parce que le commerce avec l'Angleterre et certains pays du Nord y est utile, mais il ne faut pas oublier que les deux autres centres dont on peut parler comme centres importants de l'édition française, c'est d'une part Genève et aussi Anvers.
Anvers publié en français?
Anvers publié en français. Les Hollandais, les Néerlandais ont eu longtemps une tradition de publier en français un certain nombre d'ouvrages.
Est-ce qu'on a une idée de la quantité de publications annuelles de livres? Je sais bien que tout ça est variable et c'est augmenté avec les années, mais est-ce qu'on a une idée de ça?
C'est très difficile à dire parce que nous avons perdu un certain nombre de livres qui n'existent plus. Ils ont disparu des bibliothèques ou des endroits où on les conservait. Parfois, il n'y a qu'un seul exemplaire. Les tirages étaient relativement faibles, 300, 400, 500 exemplaires, peut-être plus. Et puis, il y avait bien sûr de grandes rééditions. On peut considérer, sans dire qu'année par année, il y avait tant d'ouvrages, que sur l'ensemble de ce qu'on va appeler le XVIe siècle, il y a à peu près 10 000 à 11 000 volumes qui ont été publiés.
Ce qui est beaucoup.
Ce qui est beaucoup. Pas seulement des traductions, bien entendu.
Oui, bien sûr. Et est-ce que les statistiques nous disent la proportion, là, de traductions et de livres
alors,
en français?
Ce sont des chiffres qu'on a essayé de mettre en place, qui sont sujets à caution pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, mais on peut estimer que le chiffre des traductions varie autour entre 5 et 7% à peu près.
Donc c'est relativement peu.
Relativement peu, mais c'est un chiffre qui se retrouve par la suite, dans les autres siècles.
Alors, je présume aussi qu'une des raisons pour lesquelles les statistiques sont difficiles, c'est que le dépôt légal n'a été inventé qu'après, quelques années après. Mais...
Il a été inventé à la fin du XVIe siècle, précisément.
Alors, le mot « traduction » apparaît, je crois, en 1537, d'après ce que votre volume dit. Comment disait-on avant ? Si le premier volume traduit en France date de 1476, ça fait 61 ans de la chose sans le mot.
Sans le mot, mais avec d'autres mots pour l'exprimer, bien évidemment. On avait l'expression « translater » ou « translation » ou encore plus généralement « tourner »,« faire une version ». Ce sont les mots qu'on employait. Et les mots « traduire », « traduction », traductif même, sont apparus à peu près en même temps aux alentours de la date que vous avez donnée, c'est-à-dire autour de 1550, avec ce premier exemple, effectivement, en 1537.
Alors, qu'est-ce qu'on a commencé à traduire ? J'imagine que c'était des langues antiques ?
Bien évidemment. Une des choses importantes de la Renaissance, dans les années qui sont en France, du moins, puisqu'en Italie, ça a commencé plutôt autour des années 1450, c'est l'invention de l'imprimerie, et c'est surtout l'arrivée également de savants grecs chassés par la prise de Constantinople, à ce moment-là, qui arrivent, qui restituent, comme Rabelais le fait dire à Gargantua, toutes choses, y compris les langues. Et donc, il a été important pour les premiers imprimeurs de faire connaître soit la Bible, c'est le cas de Gutenberg, vous l'avez rappelé, soit aussi les textes antiques que l'on redécouvre. Alors que l'on redécouvre, soyons quand même honnêtes avec les gens qui ont précédé la Renaissance. Bien avant, grâce en particulier à un certain nombre de traducteurs comme Nicole Orem, il y a effectivement des traductions du latin et du grec qui sont faites. Mais les premières traductions portent sur la Bible et les textes antiques, et cela durera pratiquement pendant tout le XVIe siècle.
Alors, vous avez soulevé un point intéressant, c'est un des heureux effets de la chute de Constantinople, c'est-à-dire que...
De ce point de vue, tout à fait. L'Italie en a d'ailleurs bénéficié un petit peu avant la
France. Comment ça se fait ?
Même si le grec a continué à être toujours un petit peu enseigné en France et connu en France, en fait, il ne l'était plus guère pendant cette période, et on voyait parfois dans les manuscrits apparaître l'expression « graecum est non legitur », c'est du grec, on ne le lit pas, et donc on passait.
Non, mais je veux dire, comment se fait-il qu'il soit arrivé et que ça soit revenu en Italie d'abord ?
Bah, par des chemins géographiques. Normaux.
Mais les Italiens étaient aussi plus curieux, et étaient curieux avant nous.
Mais il y avait également des colonies grecques en Italie, mais ça a précédé de peu l'arrivée en France.
Alors, Yves Chevrel, vous nous dites que, évidemment, les premières traductions étaient des traductions religieuses. En ce qui concerne les antiques, je crois que, par exemple, on redécouvre Aristophane précisément à cause de cette arrivée des savants grecs de Constantinople. Est-ce que auparavant il était caché parce que c'était un auteur comique qui n'était pas bien séant et que la Sorbonne préférait Aristote, ou bien c'est un pur hasard ?
Non, je pense que il y avait cette question de bien séance qui a duré très très longtemps, hein, bien évidemment en France même. Pendant longtemps, on a traduit Aristophane, du moins certaines pièces, qu'en latin et non pas en français. Et il n'y a que quelques pièces d'Aristophane, 3 ou 4 je crois, qui ont été traduites en français pendant la période qui nous intéresse aujourd'hui.
Alors, quels ont été les grands auteurs redécouverts à ce moment-là, à part lui ?
Alors, les grands auteurs redécouverts sont des gens comme d'autres tragiques, comme Sophocle, Euripide, Eschyle, en revanche, pratiquement pas. Et dans le cas de Sophocle et d'Euripide, il a fallu aussi expliquer aux lecteurs, leur expliquer que ce qu'était une tragédie. Et ne manquant de mots pour dire ce que c'était, on employait l'expression au début de moralité. Une tragédie est une moralité, une sorte de moralité.
Ça veut dire la mention de genre, quand on publiait une pièce de Sophocle, était Édipe, moralité ?
Non, on expliquait. Là, vous posez un autre problème, qui est le problème qu'ont les traducteurs à ce moment-là, employons ce terme, même si certains, dans certains cas, c'est un peu avant que le terme n'existe, c'est que les traducteurs publient le texte, et puis ils doivent expliquer dans une préface, ou dans une des nombreuses préfaces, ou dans des nombreux avant-textes, ce dont il est question, effectivement.
Mais dans ces préfaces, le mot tragédie apparaissait déjà ? On disait c'est une tragédie, c'est-à-dire une moralité, c'est ça que
je
voulais dire ?
Oui. Ah, oui, je pense, oui. Honnêtement, je ne saurais le jurer, mais je le pense.
Et d'ailleurs, là, c'est une des conséquences probables des traductions, une des nombreuses conséquences des traductions à cette période, c'est que c'est vers ce moment-là que les premières tragédies en France apparaissent. Donc c'est une conséquence naturelle.
Oui, tout à fait, et elles apparaissent parce que ce sont dans des collèges, parfois, où on met en scène certains éléments de ces tragédies. tragédie. Et puis on peut mettre en scène aussi un certain nombre de tragédies qui sont tirées de la Bible, bien évidemment aussi, ou de pièces de théâtre qui ne sont pas appelées forcément tragédiques, mais qui sont tirées de la Bible. Oui, mais c'est très tardif. Le théâtre tragique français, c'est la fin du XVIe.
Ouais. Alors, ça, c'est pour les traductions littéraires. Qu'en est-il des traductions plus spécialisées, philosophiques ou critiques? Je crois que c'est une période aussi où se publient beaucoup de dictionnaires, n'est-ce pas?
Alors, un des problèmes qu'ont rencontré les gens de la Renaissance, c'est d'avoir des outils pour traduire et pour aider les traducteurs. Donc, on voit apparaître toute une série de dictionnaires bilingues. D'abord, simplement des dictionnaires latin-latin. N'oublions pas que l'imprimerie permet de diffuser un savoir qui, avant, était réservé à quelques-uns. Donc, des dictionnaires latin-latin, des dictionnaires latin-français, des dictionnaires latin-grec, mais il n'existe pratiquement pas à ce moment-là, par exemple, de dictionnaires monolingues. C'est en Espagne qu'on trouvera le premier au début du XVIIe siècle.
Mais il n'y a pas de dictionnaire français à ce moment-là.
Non, c'est par rapport au latin, car le français est enseigné par rapport au latin. On apprend aux gens le français à partir du latin.
Et le premier dictionnaire français date de quand ?
Le premier dictionnaire français doit dater du début du XVIIe siècle.
Alors, pour en rester justement sur ces questions des langues européennes, on a vu les langues antiques, où j'imagine qu'il faut ajouter l'hébreu aussi.
Bien entendu, bien entendu.
Qu'en est-il des autres langues, des langues vivantes que l'on traduit ? L'italien, l'espagnol, l'anglais, l'allemand ?
Alors, dans l'énumération que vous faites, il y a une langue qui est relativement peu traduite, c'est l'anglais. Car, bien sûr, l'italien, l'espagnol sont beaucoup traduits. En même temps, un certain nombre de gens cultivés connaissent l'italien et par les mariages qui peuvent se faire, apprennent aussi l'espagnol. Mais l'allemand est un peu traduit aussi, mais l'autre langue qui est connue, c'est le flamand. Le flamand est à ce moment-là plus connu que ne peut l'être sur le continent, que ne peut l'être l'anglais.
Et vous expliquez ça comment ? À cause des origines françaises de la langue anglaise à ce moment-là, qui est en
pour une part, probablement.
Ou des questions politiques ?
Probablement, parce qu'on peut, penser, mais bon, on est sûr, qu'en Angleterre, un certain nombre de gens parlent le français, donc ils n'ont pas besoin, et donc on leur apprend éventuellement, il y a des outils qui leur permettent aux Anglais d'apprendre le français, ça existe. Et puis, deuxièmement, les Anglais ne sont pas sur le continent, n'est-ce pas ? Alors que les Flamands le sont. Et que les Flamands sont des gens extrêmement, extrêmement actifs, qui sont des marchands, qui ont beaucoup développé également dans la série des livres qui paraissent à ce moment-là, des petits dictionnaires, des petits opuscules qui permettent aux voyageurs de s'exprimer en différentes langues, ou du moins de trouver les termes qui correspondent à ceux qu'ils voudraient utiliser dans leur propre langue.
Quant à l'italien, je présume aussi que ce qui a aidé, c'est que c'était en partie une langue de la cour, puisque des rois ont épousé des Italiennes. J'imagine que l'arrivée de Catherine de Médicis, enfin le mariage de Catherine de Médicis avec Henri II, si j'arrive à le dire, a dû aussi influencer.
Oui, bien sûr. Il est évident que justement les mariages princiers, là où les mariages royaux en l'occurrence, ont joué un très grand rôle. Bon, d'autre part, il y a aussi le fait que les Français sont allés aussi en Italie pour des raisons qui n'étaient pas toujours matrimoniales, mais également guerrières. Par conséquent, un certain nombre d'officiers, qui par la suite ont devenu un traducteur par exemple, ont été au contact de l'italien, donc ont appris cette langue. Et d'autre part, il faut dire aussi, j'évoquais tout à l'heure le problème de la Renaissance un peu plus tôt en Italie qu'en France, que ce que les Italiens appellent les tre corone et les trois couronnes, c'est-à-dire Pétrarque, Dante et Boccace, sont de grands auteurs et ils sont traduits.
À propos de ces grands intellectuels qui ne portaient pas ce nom que vous venez de citer, Pétrarque, Dante et Boccace, ces gens sont très connus, mais je voudrais que vous rendiez, si vous voulez bien, hommage aux libraires éditeurs qui ont eu une action excessivement importante à ce moment-là, et en particulier parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Est-ce que vous voudriez me parler d'Étienne Dolet ?
Alors, évidemment, Étienne Dolet est célèbre en particulier parce qu'il a eu cette fin sinistre et tragique.
Mais rappelez-la nous, parce que tout le monde ne connaît pas sa vie, dites-nous.
Oui,
donc il est né en 1508, c'est ça ?
Il est né en 1508 et il périt sur le bûcher au bout d'une existence assez brève. C'est quelqu'un qui est un grand traducteur, qui a traduit du latin, du grec, qui a écrit, et c'est surtout son principal mérite, et c'est ce qui fait qu'il est peut-être considéré comme le premier théoricien, du moins en langue française, sur la traduction. En 1540, il publie un petit livre, « De l'art de bien traduire ». Or, ce petit livre est très souvent cité, mais il faudrait le lire parce qu'il ne fait que 6 pages. Il ne fait que 6 pages à l'intérieur de tout un ensemble où Dolet s'intéresse à la langue française, en général. Mais dans ces petites indications qu'il donne sur l'art de bien traduire, il pose déjà des principes que par la suite on ne cessera de suivre. Avec en particulier cette idée qui est déjà sous-jacente chez lui, que bien sûr il faut bien connaître la langue de départ, bien connaître la langue d'arrivée, ça semble évident, mais que d'autre part, il ne faut pas non plus s'astreindre, c'est un des grands débats de cette époque-là, et ça continuera par la suite, il ne faut pas traduire ad verbum, donc au mot pour mot, mais au contraire, tenir compte de l'ensemble du sens, et je pense qu'il est un de ceux qui déjà ont vu que dans une opération de traduction, il y a une sorte de curseur, ce n'est pas le mot qu'il aura employé bien sûr, de curseur qui fait que ou bien le traducteur se rapproche beaucoup du public à qui il s'adresse, ou bien il se rapproche beaucoup de celui qu'il traduit, et c'est un peu entre ces deux grands pôles que la traduction se situe.
Et donc Étienne Dolet, il faut le rappeler, en ces temps où l'Église catholique devient de plus en plus libérale jour après jour, est mort en 1546, il a été étranglé et brûlé avec ses livres Place Maubert à Paris, car on lui reprochait une phrase niant l'immortalité de l'âme dans une traduction d'un pseudo-Platon. Nous allons dédier ce passage à Monseigneur Barbara. Avant de passer à la deuxième partie de l'émission, Yves Chevrette, je voudrais juste qu'on mentionne une chose, c'est le nombre relativement important de femmes traductrices.
Alors c'est un peu une des découvertes du volume dont vous avez parlé. Peut-être parce que beaucoup de nos collaborateurs sont en fait des collaboratrices, et en particulier la responsable du volume elle-même, Véronique Duché, qui est professeure en Australie. Nous n'avons pas un pronom commun comme en anglais ou en allemand par exemple, ils ont mis en évidence qu'il y avait beaucoup de femmes traductrices, beaucoup plus qu'on ne le pensait.
Nous allons maintenant entendre une chanson et sa traduction, et ceci dans le même moment. Les deux interprétations, l'un des interprètes étant l'auteur de la chanson, sont très différentes. Le mélange fonctionne-t-il? Voici donc Paolo Conte et Régine dans Azzurro, la chanson. Date de 1968 et le duo de 2009.
Azzurro, mais à Paris, pleut des cordes et je m'ennuie.
E allora, io quasi quasi prendo il treno e vengo da te.
Mais le train me laisse en route et chaque soir je rentre à pied chez moi.
Come facevo da bambino.
Je t'imagine comme un baobab, sans trouver la moindre fleurette, car cette année tout a gelé.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te.
Alors, je me fabrique un train de rêve qui va vers toi.
Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va.
Azzurro, le ciel est bleu comme l'azzurro en Italie. Azzurro, mais à Paris.
Yves Chevrette, une des questions très importantes de la traduction en France à la Renaissance, c'est que c'est le moment où une espèce de nationalisme linguistique français se met en place. On pense évidemment à Joaquin du Bellay et à son traité sur la langue française. En 1497, au Parlement de Paris, Jean Lemaître souhaite qu'on parle uniquement en français, en citant l'exemple des Latins, qui faisaient la même chose. Et on a l'impression que se met en place un système de verrouillage de la langue française en même temps qu'une ouverture à la traduction.
Il est évident que la situation linguistique de la France au XVe siècle est une situation très différente de la nôtre, et que je crois qu'il nous faut imaginer que le latin est encore à ce moment-là, au début du XVe, une langue vivante. Très vivante même. Parlée, il est vrai, par une minorité de gens, mais cette minorité de gens qui parlent le latin sont aussi des gens qui parlent bien sûr le français. Et étant donné ce souci de se rapprocher des anciens, de mieux les connaître et de mieux les faire connaître, il est évident que le français va être une sorte de base de départ pour que la langue française perce au fur et à mesure et s'impose comme une langue de référence. Et les traducteurs, et pas seulement eux, ont eu le souci de faire en sorte que la langue française soit désormais considérée comme une langue qui était capable non seulement de bien faire connaître ce qui avait été dit avant et fort bien par les anciens, mais également de faire connaître des choses nouvelles et de se montrer parfaitement à l'aise pour dire tout, non seulement dans le domaine des lettres anciennes, mais également dans le domaine de l'architecture. Donc, effectivement, les traductions vont se produire en de plus en plus grand nombre. Elles existaient déjà, bien sûr, au Moyen-Âge, mais elles vont permettre à la langue française de prendre des appuis supplémentaires et finalement de permettre à cette langue de s'enrichir, puisque c'est aussi un des buts des traducteurs.
Ce qui est frappant dans votre volume, c'est que pendant de très nombreuses années, nous passons notre temps, nous autres Français, à nous poser des questions sur l'insuffisance de la langue française. On voit tous ces traducteurs dire « mais avons-nous assez de mots? Sommes-nous assez capables ?»
Oui, mais ils ont raison, parce qu'un des grands problèmes que rencontrent les traducteurs, que ce soit en philosophie, en architecture ou dans le domaine du droit, c'est de trouver pour le français, quand le français devient effectivement la langue du royaume, l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, si je me rappelle bien, impose que la langue française soit utilisée partout. Mais il faut bien voir qu'auparavant, les architectes, les notaires, les juristes ont besoin parfois de trouver des mots français pour les contrats, par exemple dans le cas des notaires. Une des choses intéressantes que l'on trouve dans cette époque-là, c'est que les notaires doivent établir leurs actes en latin, et ça durera un certain temps, mais dans certains cas, on voit apparaître des notions en français, comme on dit en français, ou en gaulois, ou gallicum, siwe gallicum, comme on dit en français.
Et d'ailleurs, une chose frappante est qu'un traducteur du fameux traité d'architecture d'Alberti, en 1553, dit dans sa présentation du livre au roi, qui est Henri II, que grâce à sa traduction, la langue française sera enrichie de 1000 mots auparavant cachés dans les boutiques des seuls ouvriers. C'est-à-dire que l'importation de mots est au fond une ouverture qui contredit presque le discours quasi-nationaliste sur la langue, non ?
Oui, là, alors on touche également à un problème un peu compliqué, c'est qu'il y a quand même toute une série de gens qui veulent maintenir le latin comme la grande langue de référence. C'est le cas de quelqu'un comme Guillaume Budet, mais qui peu après, d'ailleurs, se convertira un peu à l'idée qu'il faut trouver dans le domaine du droit des expressions françaises. Mais les traducteurs se rendent compte qu'il y a des richesses dans le vocabulaire des artisans, enfin des gens du peuple, et qu'on peut utiliser ces mots-là pour rendre compte de termes pour lesquels on n'avait pas jusqu'à présent d'équivalent. Donc, l'enrichissement du vocabulaire, ça consiste aussi à retrouver des termes qui jusqu'à présent n'était pas vraiment connu. Montaigne l'a dit en disant que le Gascon doit y aller si le français ne peut y aller, mais vous avez des gens à cette époque-là qui recommandent d'aller chercher des termes en Picard ou ailleurs, parce qu'il faut enrichir la langue.
Oui, donc on voit bien qu'on est avant Malherbe et dans une période beaucoup plus détendue pour ça.
Ah, tout à fait. Là, je pense qu'avec Malherbe, une fois qu'il est venu, eh bien, les choses vont se figer, et se figer malheureusement pendant longtemps.
Alors, ce qui est important dans cette période, c'est que tout ça est une affaire de pensée, de littérature, de langue, mais c'est aussi une affaire de politique. On voit bien, en lisant votre volume, que les rois de France et les gouvernements ne sont pas pour rien dans tout ça. Ça n'est pas pour rien que François Ier est appelé le père et le restaurateur des lettres. Il a, je crois, en particulier, vers 1540, lancé lui-même une campagne de traduction.
Oui, alors il n'est pas le premier roi à l'avoir fait. Déjà auparavant, avant lui, Charles V l'avait fait. Mais il est vrai que les traducteurs, qui ne sont pas encore des traducteurs professionnels, ont besoin d'une incitation, et ce sont les grands, le roi en particulier, qui vont dans ce sens. Et donc il y a une politique vraiment délibérée de la part du pouvoir royal d'enrichir la langue française et de la mettre en état de concurrencer l'italien, moins l'espagnol qui à ce moment-là est moins pratiqué, mais l'italien a une très grande renommée. Et donc, il est vrai que là, il est nécessaire que le pouvoir, je dirais pas intervienne, mais suscite des traductions. Ça se voit bien, par exemple, dans les privilèges, c'est-à-dire l'autorisation qui est donnée de publier. Les remerciements nous paraissent parfois des remerciements un peu exagérés de la part des traducteurs ou des éditeurs, des imprimeurs, parce qu'il est difficile de faire la part des choses dans ces cas-là. Mais en même temps, c'est absolument nécessaire pour que, financièrement, les risques financiers pris par les imprimeurs soient couverts. Et tous ne couvrent pas leurs frais, bien évidemment.
Mais d'ailleurs, c'est un moment où les traducteurs, ou certains en tout cas, deviennent quasiment des fonctionnaires, puisque Clément Marot a le titre de valet de chambre du roi. Après tout, un valet de chambre du roi, c'est un fonctionnaire.
Oui, enfin, il faut dire que je pense que la fonction de valet de chambre du roi ne lui créait pas de très très grands soucis. C'était plutôt un titre, je dirais pas honorifique, mais presque. Et donc,
Je veux dire, c'est qu'il était payé par la couronne.
C'était du mécénat. Je crois que le terme doit être prononcé parce qu'une grande partie des traductions sont le fait de mécènes, mais pas seulement. Il y a également des libraires qui prennent des risques parce qu'ils pensent, par exemple, on peut penser à des grandes séries de romans comme les Amadis de Gaulle, qu'il y a un profit considérable.
Qu'est-ce que c'est les Amadis de Gaulle?
Les Amadis de Gaulle, c'est une série d'ouvrages venus d'abord de l'espagnol et puis qu'on va trouver dans d'autres langues qui ont été traduits pendant tout le XVIe siècle. Et qui auront encore un peu d'influence, un rôle important au cours du XVIIe.
Et pour en revenir à Marot et à son titre de valet de chambre, on sait qu'il a fait des lectures publiques, de traductions en présence du roi.
Oui. Tout à fait. Et ces lectures publiques, évidemment, qui d'ailleurs ont parfois été matérialisées par des peintures, on voit le traducteur ou l'auteur lire ses poèmes, montrent bien l'importance que cela avait, la présence royale. Mais en même temps, puisque vous parlez de Marot, il faut pas oublier que Marot incorporait volontiers à son œuvre ses traductions. C'est-à-dire que là, on voit aussi ce qui, pour une part, différencie les traductions de cette époque et les traducteurs de cette époque de la nôtre, c'est qu'ils peuvent considérer, mais tout à fait normalement, que l'œuvre qu'ils ont traduite leur appartient, est leur œuvre propre.
Est-ce que les autres pays ont une politique éditoriale, si je puis employer un anachronisme, semblable à la France? Est-ce que ça se passe à peu près de la même façon en Italie, en Espagne, en Flandre?
Alors, je ne saurais trop dire pour l'Italie et l'Espagne. En revanche, pour l'Allemagne, à la différence de la France, est un pays qui reste tout à fait attaché au latin comme langue de publication. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, alors qu'en Espagne et en Italie, la même chose se fait, puisque c'est en Espagne qu'est publié le premier dictionnaire monolingue, espagnol. Et donc, Italie et l'Espagne vivent un peu sur leur lancée, alors que l'Allemagne, elle, continue à publier presque exclusivement en latin, très très peu d'ouvrages traduits en allemand, et encore moins d'ouvrages vraiment publiés directement en allemand. Les Hollandais publient effectivement en flamand, mais aussi en français, comme on l'a vu.
Yves Chevrel, le secret professionnel des traductions en France à la Renaissance, est-ce que ça ne serait pas le génie de l'importation maximale pour arriver à l'exportation maximale, un peu comme font les Chinois avec les produits manufacturés de nos jours? Et est-ce que nous autres Français avons été les plus brillants voleurs de la Renaissance?
Je ne pense pas que nous ayons été les plus brillants voleurs de la Renaissance. Je pense que nous avons bien utilisé les possibilités qui étaient données, enfin nous, nos ancêtres, ont bien utilisé les procédés qu'ils avaient, en particulier l'imprimerie, mais qu'on voit se mettre en place effectivement une politique du pouvoir central qui va perdurer et qui va continuer à travers Louis XIV et ses successeurs. Je ne pense pas qu'on puisse parler de vol. Je pense qu'on peut surtout parler de volonté de faire connaître un outil qui apparaît comme étant un des meilleurs linguistiquement pour expliquer, commenter la réalité nouvelle.
C'était Secret Professionnel le 213e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel des premiers reportages photographiques de guerre. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral. Prise de son, Jean-Richard Dufour. Recherche INA, Joseph Sariera. Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.